Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu hier? Étant donné l'importance de ce moment, le passage de l'expérience à l'interrogation. Je crois que c'est très important de bien saisir cela et puis de bien saisir ce moment affectif de l'étonnement, de l'admiration et du point de vue de l'angoisse. Saisir comment on peut très bien passer de l'admiration à l'angoisse dans la mesure où justement il n'y a plus ce point d'appui de l'intelligence par rapport au réel. Et je crois que c'est à partir de là qu'il faudrait essayer de comprendre ce que représente l'angoisse, dans la mesure où il y a cet oubli du jugement d'existence. Et cet oubli du jugement d'existence conduit fatalement à rejeter tous les étants, c'est-à-dire toutes les déterminations. Et alors à ce moment-là, il n'y a plus rien. Alors il y a un vide. Et c'est ce vide que l'intelligence porte affectivement, qui, je crois, est le néant. Parce que c'est très difficile de bien comprendre ce que le néant, dans le sens heideggerien, inséparable de l'angoisse. Et ce n'est pas la négation. Heidegger le dit. Il dit, c'est pas la pure négation. C'est pas du tout comme lorsque je nie. C'est autre chose. C'est comme un abîme qui se creuse en nous et qui se creuse par le point de vue affectif. Que l'imagination soit liée à cela, je crois. Je crois que c'est un abîme. Mais quand je dis imaginatif, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est réel en nous, mais c'est imaginatif. C'est ce lien entre l'affectivité et l'imagination et la négation. C'est complexe, autrement dit. C'est pas simple du tout. Alors, je continue, s'il n'y a pas de questions. Je continue pour essayer de comprendre comment, à partir de l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, où il y a continuité, et c'est ça qui est très important à saisir, parce que s'il n'y avait pas de continuité entre l'expérience, c'est-à-dire le jugement d'existence et l'interrogation, on ne pourrait pas revenir à la réalité expérimentée. On ne pourrait pas revenir au jugement d'existence s'il n'y avait pas de continuité. S'il y avait une brisure, on ne pourrait que rester devant l'être. Et c'est ce qui explique, je crois, penser l'être, on ne peut pas aller plus loin. Il me semble que dans la perspective heideggerienne, Heidegger a raison de dire « je pense l'être » et puis c'est tout. Et j'attends. Il ne peut pas aller plus loin, il y a une coupure. Et que l'être surgit à partir de l'admiration, à partir de l'angoisse. Et donc, on ne peut pas revenir aux étangs, ce serait contradictoire. Les étangs ne nous disant rien de l'être. Tandis qu'au contraire, si nous comprenons qu'il y a dans le jugement d'existence un toucher de l'intelligence qui dépasse toutes les catégories et qui atteint vraiment quelque chose de l'acte d'être, qui atteint vraiment ce que représente et que ce que signifie est, exister. Alors à ce moment-là, nous comprenons comment, par l'interrogation et grâce à l'interrogation, nous pouvons revenir à la réalité existante sous un aspect particulier. Mais nous ne revenons pas à la réalité existante, nous ne revenons pas à l'expérience de la réalité comme au point de départ. Il y a autre chose dans ce retour, et c'est cela que je voudrais expliquer avec vous, pour que nous comprenions bien ce que représente l'induction. Vous comprenez que ça, c'est très très difficile à saisir. Ça, j'avoue que c'est toujours là où on est devant, je ne dis pas un mystère, c'est pas un mystère du tout, mais on est devant l'activité propre de l'intelligence, que saint Thomas appelle « intus legere ». Et c'est vraiment « l'intus legere », c'est-à-dire lire en profondeur, dépasser la lecture descriptive, dépasser la lecture immédiate, pour avoir une lecture de la réalité qui implique une analyse. Donc, délibérément, c'est conscient. Hein. Quand je fais une induction, je sais que je la fais. Donc, c'est vraiment une activité lucide de l'intelligence qui doit pouvoir se critiquer, comme toujours une activité lucide. C'est au-delà de la critique, c'est plus profond que... C'est plus profond que la critique, en ce sens que c'est le fondement de la critique, mais on doit pouvoir critiquer cette opération. Alors, essayons par un petit schème hein, pour nous aider, mais il faut dépasser le schème. Ceci est. Je suis en contact avec la réalité existante. Et dans cette réalité existante, je mets en lumière le point de vue est, et non pas le ceci. Ceci est secondaire. Je ne le nie pas, hein. Je le laisse de côté. À partir de là, l'interrogation. Qu'est-ce l'être ? Et ceci n'est à l'intérieur d'une attitude affective, il faut bien comprendre, le thumos, le désir d'atteindre la vérité. S'il n'y a pas ce désir, il n'y aura pas d'interrogation. Vous voyez, là, on est chercheur, le chien de chasse, pour Platon. On est chercheur, on cherche. Et pour chercher, il faut désirer. Et donc, il y a nécessairement une attitude du sujet qui s'engage, le sujet connaissant. Parce que dès qu'on touche l'affectivité, c'est le sujet connaissant, le sujet qui veut connaître. Je crois que très souvent, c'est cette partie-là qu'on ne voit pas assez et qui, par le fait même, fait que l'interrogation n'a plus l'efficacité qu'elle devrait avoir. Parce que quand l'arc n'est pas tendu, hein, je vous ai toujours donné l'exemple de l'arc tendu. C'est l'arc tendu, l'interrogation. On veut saisir, mais on l'a formalisé comparativement au jugement d'existence. Le jugement d'existence nous fait coller à la réalité, nous fait toucher la réalité. Ici, il y a nécessairement une certaine formalisation qu'il faut bien comprendre, du reste. Une certaine formalisation d'un type tout à fait particulier, qui est dans le prolongement de la formalisation blanc-blancheur, mais qui est d'un type tout à fait différent. Puisqu'on est au niveau de l'être. Et donc, cette formalisation est d'un type tout à fait différent. Parce qu'au niveau de l'être, le point de vue du concret et le point de vue de l'abstrait ont la même signification. Oui, c'est pour ça que là, il y a une formalisation très, très particulière. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et c'est ici que nous entrons dans la perspective nouvelle, parce qu'on a thématisé, on a présenté l'être comme ce qu'on cherche. Et pour répondre à cette interrogation, remarquez que je peux rester assez longtemps sur cette interrogation. Je peux y rester, je peux l'aimer. Je peux aimer cette interrogation, il n'y a aucun danger d'aimer cette interrogation. Il faut même l'aimer. C'est-à-dire, il faut comprendre, il faut prendre une conscience parfaite de ce que représente cette interrogation où l'intelligence quitte la réalité existante pour s'élever plus haut. Et elle s'élève très haut quand elle dit qu'est-ce que c'est que l'être. Elle s'élève le plus haut qu'elle peut s'élever. Tandis que quand je dis qu'est-ce que c'est que la blancheur, je ne me lève pas très haut. Tandis que quand je dis qu'est-ce que c'est que l'être, l'intelligence s'élève dans ce qu'elle a de plus élevé. Parce qu'au fond, quand l'intelligence interroge qu'est-ce que c'est que l'être, l'intelligence sait qu'elle touche à ce qu'il y a de plus fondamental dans son appétit. Elle n'en a pas tout de suite conscience, mais progressivement elle en prend conscience. Et donc elle prend conscience de plus en plus de l'importance de cette interrogation qui objective, thématise l'appétit foncier de l'esprit, l'appétit foncier de l'intelligence, qui est faite pour l'être, qui est faite pour saisir ce qui est, et qui est faite pour le saisir à sa manière. Elle ne peut pas le saisir sans le formaliser. Mais en le formalisant, elle ne détruit pas le contenu de ce qu'elle a saisi par le jugement d'existence. C'est ça qui est extraordinaire dans cette interrogation. Elle le sait. Dès que l'intelligence connaît quelque chose, l'intelligence transforme ce qu'elle connaît. Parce que l'intelligence, en connaissant, nécessairement le porte en elle-même, et c'est ça que j'appelle formaliser. Ça n'a plus la même modalité, la même manière d'exister quand ça existe dans l'intelligence et quand ça existe dans la réalité. Et ça, je dois en prendre conscience. Et j'en prends conscience à partir de ce jugement d'existence. Et qu'est-ce que c'est que l'être ? Je prends conscience de ce mode concret et je prends conscience de ce mode abstrait. Et je vois qu'il y a entre les deux la même signification, mais il y a un abîme. Vous comprenez, quand je suis au jugement d'existence, ceci est, je suis devant quelque chose de limité. C'est bien évident, le jugement d'existence est toujours à l'égard de quelque chose de limité, même quand je dis je suis, parce que le voisin aussi, il existe. Et on est limité, mais dans son contenu, quand je le formalise, on est devant quelque chose qui, d'une certaine manière, n'a pas de limite. Quand je pose « qu'est-ce que c'est que l'être ?», ça n'a plus de limite. Donc je passe du limité à ce qui n'est pas limité. Je ne dis pas l'infini, hein. J'aime mieux dire ce qui n'est pas limité. Parce que je supprime la négation du concret pour avoir justement la signification de quelque chose qui est formalisé, mais qui garde toute sa pénétration. C'est pour ça que je souligne la même signification, mais sous un mode qui n'est plus limité. Je libère, vous pourriez dire ça dans un style plus moderne, je libère l'être de toutes ses limites, d'une libération. La métaphysique est la libération de l'être. C'est quand même beau alors. C'est une libération, et c'est vrai, c'est une libération, parce que quand je suis au niveau du jugement d'existence, je suis toujours en face des réalités limitées. Tandis que là, l'intelligence peut, et c'est le rôle propre de l'intelligence, de faire cette libération, de libérer ce qui est limité, ce qui est partiel, pour lui donner une valeur plénière, une signification plénière, une signification qui est la même, et qui est plus profondément la même que lorsqu'il s'agit du jugement d'existence, parce que là, elle est limitée. Et ce qui est comme tel n'implique pas de limite. Je ne vois pas les limites que ça peut avoir, parce que toutes les réalités que j'expérimente impliquent le point de vue de l'existence. Mais je ne dis pas qu'il y a un mode infini positif, hein. C'est la négation. C'est la négation dans le sens que c'est une libération négative. Ce n'est pas une libération positive. C'est une libération négative qui fait passer du mode concret au mode abstrait. Et où je libère la signification de l'être de tout ce qui n'est pas l'être. Oui, c'est une libération de la signification de l'être de tout ce qui n'est pas l'être. Pour que l'être puisse apparaître, être manifesté, dans toute sa valeur la plus propre d'être. Donc il faut bien insister, hein, sur ce moment de l'interrogation. Mais je dis que je ne reste pas sur cette interrogation. Là, je me sépare de Heidegger. Je ne reste pas sur cette interrogation. Pourquoi ? Parce que l'interrogation comme telle réclame une réponse. Je n'interroge pas uniquement pour interroger. La finalité de l'interrogation n'est pas dans l'interrogation. La finalité de l'interrogation est au-delà de l'interrogation. Donc, pour découvrir. Si je peux découvrir. Parce que je suis en face d'une recherche dont je ne sais pas. Il faut bien se le dire. Même si certains devant moi ont découvert certaines choses, je dois le refaire pour moi-même. Et moi-même, c'est très possible que je n'arriverai pas. Parce que je peux répéter, ah oui, ils ont découvert à partir de là certaines choses étonnantes, mais moi, je ne sais pas du tout si je suis capable de le faire. Là, il s'agit vraiment de la qualité d'une intelligence. C'est une intelligence qui se met en état de découvrir, donc en état de recherche. Et elle est vraiment dans cet état de recherche. Et encore une fois, c'est la recherche la plus absolue qui soit, parce que je ne peux pas aller au-delà de ce jugement d'existence, et je ne peux pas aller au-delà de cette interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Prenez toutes les autres interrogations que vous pouvez poser. Toutes les autres interrogations. Vous verrez qu'elles se ramènent toujours à qu'est-ce que c'est que l'être. C'est, je crois, la puissance de cette interrogation-là. Et ça, il faut le comprendre. Du côté extension et du côté compréhension. Je ne peux pas avoir une interrogation plus parfaite comme interrogation. Ben, vous me direz, ah, mais oui, j'en ai une autre. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? C'est une interrogation plus parfaite que qu'est-ce que c'est que l'être ? Non, c'est vrai, c'est, vous voyez tout de suite, hein, je la pose puisque vous auriez pu me la poser. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? Alors cette interrogation est bien plus parfaite que qu'est-ce que c'est que l'être ? Donc elle est bien plus fondamentale, attention. L'interrogation qu'est-ce que c'est que Dieu ne repose pas directement sur une expérience. Et donc c'est une interrogation seconde, elle n'est pas première. Comme interrogation première, c'est l'interrogation la plus fondamentale. Et faisons la distinction. Parce que je peux très bien poser qu'est-ce que c'est que l'infini. Mais ce n'est pas une interrogation première. Tandis que là, c'est une interrogation qui demeure en continuité avec l'expérience et avec le jugement d'existence. Donc, il y a une possibilité d'une réponse. Tandis que quand je me pose la question qu'est-ce que Dieu, philosophiquement parlant, je ne peux pas donner de réponse immédiate. Parce que cette interrogation, qu'est-ce que Dieu, repose sur les traditions religieuses, repose sur des révélations, repose sur le témoignage de certains êtres qui ont une expérience mystique, mais cette expérience, elle n'est pas communicable. Elle est ineffable. C'est très bien qu'il l'est, mais elle est ineffable. Si même je l'ai, je sais qu'elle est ineffable. Et donc l'interrogation « qu'est-ce que c'est que Dieu ?» elle reste comme une interrogation à l'état pur. Vous voyez, c'est curieux. Hein? Quand Heidegger dit que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» demeure une interrogation à l'état pur sans réponse, c'est ce que nous disons de l'interrogation « qu'est-ce que c'est que Dieu ?» Et je crois que c'est important de saisir ça. Parce que presque toujours, il y a là un parallélisme. Quand je me pose la question « qu'est-ce que c'est que Dieu ?», je ne peux pas donner de réponse philosophiquement, indépendamment de l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?». Je ne peux connaître Dieu que par l'être. L'être et la bonté, mais la bonté revient à l'être, et ainsi de suite. Donc, je ne peux pas connaître Dieu par les traditions religieuses, philosophiquement parlant. Connaître Dieu par le point de vue des traditions religieuses, c'est une connaissance qui repose sur l'opinion. Les traditions religieuses, pour le philosophe, c'est une opinion. Ce n'est pas plus que ça. C'est une opinion très importante, c'est une opinion très pratique, mais c'est une opinion. Le philosophe est obligé de reconnaître ça. Et c'est pour ça qu'il pourra purifier ses opinions. C'est intéressant parce que certains prétendent qu'on ne peut pas philosophiquement critiquer les traditions religieuses. Je crois qu'au contraire, on doit dire que philosophiquement, on doit purifier les traditions religieuses. Parce que les traditions religieuses, pour le philosophe, pour l'intelligence humaine comme telle, c'est une opinion. C'est autre chose pour la foi, vous voyez. Parce que la foi se dit par elle-même au-delà de toute intelligibilité. Elle a ce privilège de se mettre tout de suite au-delà de toute critique. Alors, vous allez dire que ça, c'est un a priori. Oui, pour le philosophe, c'est un a priori. Je veux bien. Je veux bien accepter que pour le philosophe, le croyant qui croit, c'est un a priori. C'est pour ça que Merleau-Ponty disait « Je n'aime pas de parler aux chrétiens parce qu'ils savent. » Alors, vous voyez, on voit bien ce qu'il veut dire. Parce que c'est un a priori pour lui. C'est quelque chose qui était déjà donné. Et il faut le reconnaître que pour le philosophe, la foi est comme un a priori. Pour le croyant, la foi n'est pas un a priori parce qu'il dit c'est un don. Quand vous recevez un don de quelqu'un, vous ne dites pas c'est un a priori. Je ne suis pas digne de le recevoir. Mais oui, vous n'êtes pas digne de le recevoir, mais ce n'est quand même pas un a priori, c'est une réalité qui vous est donnée. Et que vous pouvez connaître, que vous connaissez par un procédé qui n'est plus l'expérience, qui n'est plus la recherche philosophique, qui est un autre procédé. Et vous le savez, et vous en êtes conscient. Oui. Donc, comprenons que cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est l'interrogation philosophique par excellence.
Ça, c'est très important de saisir
que c'est cette interrogation à laquelle toutes les autres se ramènent. Elle est première dans le sens où elle est reliée directement au jugement d'existence. Et donc, dans la ligne des interrogations propres de l'intelligence, c'est vraiment l'interrogation par excellence. Cette interrogation demande de revenir à la réalité expérimentée existante. C'est ça ce retour hein, qui est important à voir. Je suis parti de la réalité existante, j'interroge et je reviens à cette réalité. Mais je reviens à cette réalité dans une autre lumière. C'est ça qu'il faut saisir. Parce que c'est là où on saisit le procédé inductif. C'est là qu'on saisit ce que représente une induction. Alors, mettez à côté hein, toutes les inductions que vous avez dans la tête qui sont sûrement des inductions baconiennes. Parce qu'on est tous pollués par ça. Non ? Alors, il faut essayer de redécouvrir l'induction à l'état pur, comme toujours au plan métaphysique. On redécouvre tout à l'état pur. Et c'est la difficulté qu'on a. C'est comme les vieux tableaux qui sont tout noirs à cause du vernis. N'est-ce pas ? Qui sont tout noircis à cause d'un vieux vernis. Et quand on essaie de redécouvrir progressivement la couleur ou redécouvrir ce qui a été donné au point de départ, il faut faire attention, il faut purifier. Mais si on va trop loin, on va manger la couleur. Alors il n'y aura plus rien du tout, n'est-ce pas ? Dans la purification. Alors il faut arriver à cette purification de l'intelligence dans tous ces moments, vous voyez, de l'expérience, je reviens au jugement d'existence, l'interrogation, je prends l'interrogation à l'état pur d'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous voyez, c'est presque l'intelligence qui réfléchit sur ce qu'elle est, parce que l'intelligence comme intelligence ne se révèle que par rapport à l'être. Et donc c'est bien l'interrogation radicale. L'intelligence ne se définit pas par rapport à Dieu, philosophiquement parlant. Quand le théologien dit que l'intelligence capax dei, c'est une définition théologique de l'intelligence, mais ce n'est pas une définition philosophique de l'intelligence. L'intelligence se définit relativement à l'être. Et donc, poser qu'est-ce que c'est que l'être, c'est l'intelligence qui elle-même prend conscience de ses capacités, de son appétit, et qui se pose à elle-même la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et elle sait que dans la mesure où elle pourra connaître ce que c'est que l'être, elle se révélera à elle-même ce qu'elle est. C'est dans ce sens-là que c'est vraiment une interrogation absolument fondamentale. Mais c'est l'intelligence qui, je ne dis pas se replie sur elle-même, parce que ce ne serait pas vrai, elle ne se replie pas sur elle-même, mais elle prend une auto-lucidité absolue sur sa capacité propre. Réfléchissez longuement sur l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» en regardant l'aspect de la détermination « l'être » et regardez d'où ça progresse, d'où ça vient. Donc cet appétit radical de l'intelligence. C'est cet appétit radical de l'intelligence qui est tout tendu vers l'être. Réfléchissez, là, je le dis ça en glose marginale, réfléchissez sur ce que saint Thomas, quand il dit, à propos de l'intelligence, pour essayer de comprendre ce que c'est que l'intelligence, quand il dit « primo cadit in intellectu ens ».« Primo cadit in intellectu ». Eh bien, je crois que cette affirmation de saint Thomas rejoint cette interrogation radicale « qu'est-ce que c'est que l'être ?»« Primo cadit », comme un caillou qui tombe dans le puits. Mais l'être tombe dans l'intelligence. L'être tombe dans l'intelligence parce que l'intelligence a un appétit vers l'être. Et que l'intelligence est tout entière tournée vers l'être. Vers l'être, ce qui est, qu'est-ce que c'est que l'être ? Oui. C'est important hein, de saisir ce moment très où l'intelligence prend conscience de sa valeur la plus radicale. Je reviens donc à la réalité. Je peux le faire parce qu'il y a une continuité au point de vue de la signification. Je reviens à la réalité et je l'interroge. J'interroge la réalité. Qu'est-ce que c'est que l'être dans cette réalité? Vous comprenez? Je suis parti du ceci. Expérience. Dans cette expérience, je n'ai regardé que le jugement d'existence. Ceci est. Regardant uniquement est, j'ai été dans cet état d'admiration et j'ai posé l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Maintenant, puisque qu'est-ce que c'est que l'être? L'être est pris selon un mode abstrait, je ne peux rien dire de plus, si ce n'est réfléchir sur cette interrogation, mais je pourrais, remarquer, en restant uniquement sur l'interrogation et en me disant je ne vais pas sortir de l'interrogation, alors je peux alors à ce moment-là me replier sur moi-même. Il y a deux mouvements. Me replier sur moi-même et alors définir l'être par la pensée. Ça nous rappelle quelque chose. Mais je peux très bien prendre cette attitude-là. L'attitude, on comprend très bien. Hein. Vous savez, quand on vit toujours dans l'obscurité de l'être, parce que ce n'est pas tellement lumineux. Quand on vit dans cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors on fait comme la chauve-souris, on se replie sur soi. Regardez comment elle dort, la chauve-souris, c'est très très joli. Alors on se replie sur soi, et alors on voit qu'au fond, l'être, il est porté par l'intelligence. Et c'est vrai, l'être, il est porté par l'intelligence. La manière de dire qu'est-ce que c'est que l'être, c'est le fruit de l'intelligence. Ceci, c'est le fruit. Alors pour connaître le fruit, il faut connaître la source. Alors je vais me replier sur ma source de cette interrogation. Et la source de cette interrogation, mais c'est mon intelligence. Vous voyez comment, à partir de l'être saisi dans mon interrogation, je me replie sur la source de mon intelligence pour saisir, mais oui, c'est vrai, l'être, il est porté par l'intelligence, il provient de l'intelligence, et donc intelligence et être ne font qu'un. Vous savez bien la fameuse petite définition de Parménide, hein? Le to einein, le to noein, auto, c'est le même. L'être et le penser, c'est le même. Oui, la réflexion, je ne dis pas que Parménide c'est la chauve-souris, n'est-ce pas, mais c'est parce qu'au fond, il le dit pour autrement, n'est-ce pas, puisque l'être, il le reçoit de la déesse. Alors la déesse sauve tout. Quand on reçoit l'être de la déesse, on peut peut-être dire que l'être et l'intelligence ne font qu'un. Parce que la source de l'être provient de la déesse. Mais quand je l'ai découvert à partir de l'expérience, ou quand je le découvre à partir de l'angoisse, la déesse est absente. Ce n'est plus l'aspiration. Alors à ce moment-là, si je me replie sur moi-même, je vois comment penser porte l'être. Et je définis l'être en fonction de la pensée. Et je dirais que l'être n'est saisissable qu'à l'intérieur même du cogito, qu'à l'intérieur même de l'intelligo, qui ne peut pas se comprendre en dehors du penser, et donc en dehors de l'intelligence. Je relativise l'être à l'intelligence. Même quand je dis que l'être et le penser sont identiques, je relativise l'être à l'intelligence. Parce que le penser est quelque chose de vivant en moi, tandis que l'être ne l'est pas. Et donc, fatalement, si je mets à auto, si je mets que c'est le même, c'est le penser qui l'emportera. Donc, je peux, première manœuvre, hein, vous voyez, première manière de concevoir comment l'être, je peux le ramener au penser. Je dis non, je ne peux pas faire cela. Pourquoi? Parce que justement, la signification de l'être est la même que celle du jugement d'existence. Et donc, elle est antérieure à ma pensée. Avant l'interrogation, il y a eu l'expérience. Avant l'interrogation, il y a eu le jugement d'existence. Et donc, je ne peux pas ramener l'être à ma pensée. C'est très important, ça, parce que c'est très séduisant. C'est très séduisant de ramener l'être à la pensée. Parce qu'alors j'ai un être parfaitement intelligible à ce moment-là. J'ai un être lumineux. Tandis que si je le ramène au jugement d'existence, il est beaucoup moins lumineux. Et c'est peut-être ça l'être. Ce n'est pas la lumière de mon intelligence. La lumière de mon intelligence formalise l'être, mais ne me donne pas la signification de l'être. La signification de l'être est plus complexe que celle de ma pensée. Elle déborde ma pensée. Et ma pensée est relative à la signification de l'être. Parce que cette signification de l'être provient du jugement d'existence, provient de l'expérience. Et donc, ma pensée est relative à cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je ne peux pas la ramener à l'immanence de ma pensée. Je suis obligé d'accepter qu'il y a quelque chose, si je veux respecter la signification plénière de l'être, qu'il y a quelque chose d'antérieur à la pensée que je dois respecter, même si c'est plus difficile, si c'est plus obscur. L'être ne se définit pas par la lumière. C'est l'intelligence qui se définit par la lumière, mais pas l'être. L'être, il peut être opaque. Il y a des êtres qui sont d'une opacité terrible. Vous voyez le danger de définir l'être par la lumière, hein? Définir l'être par la lumière, c'est le définir. C'est le définir par le point de vue de l'intelligence. On définit l'être par le point de vue de la lumière. Je ne peux pas définir l'être par la lumière. Parce que je suis parti de réalités qui ne sont pas lumineuses. Nous ne sommes pas lumineux. Sauf dans la nuit. Autrement, nous ne sommes pas lumineux. Nous ne sommes pas lumineux parce qu'il y a en nous des opacités et c'est notre être. C'est notre réalité. Notre réalité existante n'est pas lumineuse par elle-même. La tentation, c'est justement de ramener l'être à la lumière, c'est-à-dire aux pensées, qui lui est lumineux, il est auto-lucide. Il faut bien saisir, hein. À chaque moment, il faut saisir les séductions. À chaque moment, je crois que c'est très très important, dans ce point de départ très très très, très court, si vous voulez, très raccourci, mais qui implique des quantités de choses, puisqu'on est tout à fait au point de départ, la réalité existante qui est l'autre. Le sujet connaissant, l'intelligo qui interroge. Donc le sujet connaissant, c'est l'intelligence, c'est le nous. Le nous qui est relatif à l'être. Alors le repliement possible ou le retour. Et comme le retour, il est complexe, on aimerait mieux le repliement. Et donc il y a une séduction là qui est très très grande. D'identifier l'être et la lumière de l'intelligence. D'identifier l'être et le penser. D'identifier l'être, donc de ne pas sortir de mon interrogation, et de trouver à l'intérieur même de l'interrogation la solution de la signification de l'être. En ramenant la signification de l'être au penser, donc à la lumière. Je ne peux pas le faire honnêtement, parce que je suis parti du jugement d'existence. Si je n'étais pas parti du jugement d'existence, c'est pour ça, si l'être m'était donné par la déesse, je n'aurais pas besoin. Ça, c'est pour bien comprendre. Si l'être est donné par la déesse, par Ménide, je n'ai pas besoin de revenir à la réalité, puisqu'il m'est donné par la déesse. Il m'est donné par le haut. Et quand il m'est donné par le haut, je suis indépendamment du bas. N'est-ce pas ? Et donc, je le reçois comme une lumière qui me dépasse. C'est le propre de la pensée de Parménide, vous voyez ? Et c'est ça qui est intéressant, de voir comment Parménide a conduit nécessairement à cette identification de l'être et du penser qui ne peut pas se faire immédiatement. Si nous avons accepté cette position, du moins, si nous avons reconnu qu'en effet, toutes nos connaissances partent de la réalité, de l'expérience, et que dans l'expérience, il y a le jugement d'existence. Je vois donc que le jugement d'existence est antérieur à cette interrogation, qu'il y a une continuité entre le jugement d'existence et l'interrogation, je dois donc revenir à la réalité existante. Je reviens dans une nouvelle lumière, parce que je suis parti du ceci et de la multiplicité des ceci, impliquant une unité et qui est dans le point de vue de ce qui est, Je reviens après l'interrogation uniquement pour éclairer ceci. Pensez à son et lumière. J'ai tout à fait le droit d'éclairer une partie de mon expérience. Et en revenant sous l'interrogation, je n'éclaire qu'une partie, et j'en suis conscient. Je sais très bien, étant donné l'opacité de la réalité, je ne peux pas revenir à la réalité plénière parce que je serai devant quelque chose d'opaque. Alors je suis obligé d'analyser. Et toute induction implique une analyse. Et le propre de l'analyse, c'est d'essayer, justement, quand on est en face de quelque chose de confus, d'obscur, d'opaque, de prendre une partie pour mieux saisir cette partie. Donc je suis conscient de cela, c'est important, parce que si je n'étais pas conscient, je dirais, mais le réel que je suis, c'est le réel total, non ? Vous voyez, il y a une option ici entre le point de vue de la compréhension par rapport à l'extension. Et au fond, c'est cette option que je fais dans toute induction. Dans toute induction, j'accepte d'abandonner une certaine extension momentanément. J'y reviendrai. Je n'ai pas le droit de l'abandonner en disant « ça ne m'intéresse pas » puisque je suis parti de là et que Est est présent dans ceci. Donc, mais j'ai tout à fait le droit de ne regarder qu'un aspect et de vouloir pénétrer plus avant dans cet aspect que j'éclaire par l'interrogation. Vous voyez, l'interrogation, dans ce cas-là, apparaît comme une espèce de projecteur. C'est l'intelligence qui illumine le Est, l'ayant pris d'une façon abstraite. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Là, le point de vue de l'interrogation. Et je reviens à la réalité, et je peux alors, à partir de là, comprendre ce qui est à la racine de toutes les réalités. C'est le fameux problème de la découverte de l'ousia. Ça, il faut essayer de saisir ça. Nous l'avions fait l'année dernière, mais il faut tout le temps y revenir. Donc, c'est pas un mal, je vais aller vite. C'est la fameuse découverte de l'ousia. Donc, quand j'interroge, quand je reviens sur la réalité, je vais découvrir ce que c'est que l'ousia. Je vous ai dit, prenez-le en grec, c'est mieux, parce que le latin nous a fourvoyé. N'est-ce pas ? Alors, il faut regarder l'ousia. Il faut de temps en temps revenir au grec, vous savez, c'est nécessaire. Parce que le grec dit les choses avec une précision plus grande. En latin, c'est substantia. Le latin, du reste, hein, si je suis toujours pour les choses primitives, le latin est second par rapport au grec. Donc, si je veux quelque chose de très fondamental, je reviens au grec. Parce que c'est l'ousia, et c'est vrai, c'est la première découverte qui m'intéresse. On a traduit ousia par substance. Là, je mets un petit point, un arrêt, si vous voulez, simplement au point de vue étymologique. C'est important de se rappeler que, de fait, ousia a été traduit par substantia, substare. Ce qui se tient en dessous. Alors, vous comprenez très bien, ce qui se tient en dessous, c'est le sujet. Et c'est pour cela que, de fait, il y a toute une tradition dite thomiste qui regarde la substance comme le sujet. Et à partir de là, vous matérialisez tout. Parce que, comme dit très justement Aristote, si l'ousia, le tiesti de l'ousia, c'est le sujet, alors à ce moment-là, la substance, elle est la matière. Très curieux de voir ça. Et on comprend comment le latin incline vers ça. Parce que le latin passe de ousia à substantia, substare, le sujet. Et dans toute une tradition thomiste, la substance, c'est le sujet. En faisant ça, on réduit l'aspect métaphysique à la logique ou à la physique. Parce qu'au fond, il y a les deux.
Alors, on pourrait dire la logique, c'est-à-dire un être de raison. Le sujet d'attribution ou, dans le langage d'Aristote, substance première, ce vers lequel on va s'attribuer.
Mais ce n'est pas l'ousia, ce n'est pas la substance. Ricoeur a traduit substance étance. Je vous le donne pour vous, si ça vous plaît. N'est-ce pas ? Étance. C'est-à-dire, il a inventé un mot français, parce que ce n'est pas français. Mais l'étance. Pour sauvegarder la saveur de ousia avec on. Vous comprenez, hein ? Alors, ici, nous revenons à notre recherche. Vous comprenez que sous l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je désire découvrir le noyau fondamental. Le noyau au niveau de l'être. Je désire découvrir ce qui, dans l'être, est premier. Toujours, l'interrogation « qu'est-ce ?» me conduit à découvrir ce qui est le premier dans l'ordre de la détermination. Selon la détermination, ou selon la forme. Il s'agit de découvrir ce qu'il y a de premier, le noyau central par rapport à l'être. Alors je comprends que ce noyau fondamental par rapport à l'être a un lien avec l'être. Et c'est pour ça que c'est pas mauvais de dire ousia. C'est pas mauvais de dire ousia, parce que ça a un lien avec l'être. Tandis que sujet n'a aucun lien direct avec l'être. Et donc c'est pas le noyau central. Sujet, c'est tout à fait différent. Le sujet du mouvement, le sujet de l'attribution, très bien. Mais alors, c'est lié à la physique, c'est lié à la logique. Ce n'est plus lié directement à ma recherche. C'est pour ça que je crois que si nous employons encore le mot substance, c'est difficile de le rayer, parce qu'il est tellement habitué, il a une force d'habitude telle que c'est bien difficile de le supprimer. Il faut mettre tout de suite substance comme ousia. Aujourd'hui, on peut le faire. Aujourd'hui, on peut revenir au grec très facilement. Et c'est important de revenir à cette modalité particulière de l'ousia, qui est de fait le noyau fondamental de l'être. Alors, comprenons. Comment va se faire cette découverte ? Je dis par mode inductif. L'induction, c'est le mouvement de l'intelligence qui veut aller le plus loin possible de la découverte de la réalité dans son intelligibilité. Mais de la réalité dans son intelligibilité. C'est-à-dire l'intelligence qui veut aller le plus loin dans la découverte du réel. C'est ça l'induction. C'est la différence avec l'autre mouvement de l'intelligence qui est la déduction, où je pars du connu pour exploiter tout le capital que je possède, pour exploiter toute la richesse de ce qui a été saisi. Tandis que l'induction, c'est une recherche de l'intelligence pour découvrir le principe, l'arché, pour découvrir la cause. Vous voyez, nous sommes en face de choses ici très importantes. L'intelligence veut découvrir ce qu'il y a de premier, le principe. Elle veut découvrir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, la cause. Alors vous allez me dire, peut-être qu'il n'y a rien. Ben c'est vrai, ça, c'est quand même quelque chose. Il faut se poser la question. J'interroge, je reviens en réel, mais est-ce qu'elle va vraiment découvrir quelque chose ? Je peux dire que l'intelligence, quand elle interroge ceci est, ou je suis, peu importe, vous voyez très bien prendre « je suis ». L'intelligence va-t-elle nécessairement découvrir autre chose que la première expérience qu'elle a eue ? Si l'intelligence regardait le « ceci », elle ne découvrirait rien d'autre que la détermination. C'est ça qu'il faut saisir. Et c'est parce que très souvent, l'induction est mal faite qu'on reste sur les catégories et les déterminations. Et c'est très vrai, si j'illumine le ceci, la détermination, je reste au niveau de la forme. Alors que l'induction ne porte pas sur le ceci, parce qu'elle est à partir même de l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» qui est venu du jugement d'existence, et non pas de l'expérience toute seule, mais du jugement d'existence, et donc l'interrogation porte sur « est ». Et je me pose la question, alors là vraiment, je me pose la question, cet « est », qu'est-ce qu'il y a en lui de premier ? Alors je reste sur l'interrogation.